vendredi 24 août 2018, mais est-ce que les dates, c'est encore important? Disons plutôt jour 2 de la campagne électorale au Québec. Et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Avec vous pour les 90 prochaines minutes, François Brodeur, qui n'est toujours pas seul, puisque Jean-François Roy qui assure la mise en onde, les choix musicaux, les éphémérides de cette émission est avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour François. Vous auriez de la difficulté seul probablement avec cette émission.
Probablement un peu.
Mais ce serait la même chose de mon côté, remarquez. 24 août, une journée importante dans l'histoire. Beaucoup de choses se sont passées. En 1572, c'est le début du massacre de la Saint-Barthélemy.
Oui.
Vous vous en rappelez, où est-ce que 70 000 protestants à Paris et en province seront victimes de la haine de la mère du roi, Catherine de Médicis.
À l'occasion du mariage d'Henri IV et de la reine Margot à Paris à l'époque.
Ah, j'aime vraiment ces précisions. C'est une plus-value aux éphémérides. 1660, Médard Chouard des Groseilliers et Pierre Esprit Radisson présentent leur projet de traite de fourrure. Attention, c'est la compagnie de l'abbé Dution qui obtiendra sa charte en 1670. Mm-hmm. 1791, le Parlement de Londres adopte l'acte constitutionnel et crée le Haut-Canada et le Bas-Canada, chacun avec un parlement. 1814, les Britanniques occupent Washington et incendient le Capitole en représailles à l'incendie de York à Toronto par les Américains. Le président James Madison s'enfuit. Il est parti.
Mais il faut savoir que les Britanniques ont incendié beaucoup plus que le Capitole à Washington à cette occasion-là, au point où le seul édifice de l'époque publique qui restait, c'était le bureau de poste, qui est devenu l'hôtel Trump aujourd'hui. Mais bon, tout ça, c'est de l'histoire.
Non, mais on est plongé dans l'histoire. C'est très, très pertinent ce que vous apportez. 1928, sous Times Square, à New York, un accident de métro fait 27 morts. 1949, l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, l'OTAN, formée par les États-Unis, le Canada et 10 pays européens, entre en vigueur. 1954, aux États-Unis, entrée en vigueur de la loi qui interdit le Parti communiste. Un peu plus récemment, pratiquement mon âge, 1968, la France fait sauter sa première bombe à hydrogène sous l'atoll de Fangatofa. Plus récemment, encore une fois, 1987, c'est 50 000 employés du CN et du CP qui déclenchent une grève. L'année suivante, c'est au poste canadien. On va retrouver 6 000 employés qui amorceront la grève. 1990, Saddam Hussein qui prend les diplomates en otage et seules leurs familles seront autorisées à quitter l'Iran et le Koweït. 1991, l'Ukraine proclame son indépendance à l'Union soviétique. L'année suivante, après le putsch raté de Mikhail Gorbatchev, dénonce l'attitude de la direction du Parti communiste et il quitte son poste de secrétaire général. En 1992, en Floride, le bilan de l'ouragan Andrew atteint 55 morts. 1992, le professeur Valérie Fabricant tue 4 collègues à l'Université Concordia à Montréal. 2001, parti de Toronto vers Lisbonne aux commandes de l'avion Air Transat à court de kérosène, le fameux commandant Robert Piché qui réussit à poser le planeur aux Açores.
En fait, c'était 304. Pas un planeur dans la conception, là, mais ça en est planeur. Devenu un par la force des choses.
Oui, 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 c'est ça. L'avion s'est transformé, mais c'est plutôt le type de vol. C'est moi qui ai fait erreur. Alors voilà, ça c'était tout de même une très bonne nouvelle. 2006, Jean Coutu vend à Rite Aid ses pharmacies des États-Unis dans un accord de 3,4 milliards de dollars américains qui fait du détaillant québécois le premier actionnaire de l'acquéreur. Des naissances, l'écrivain argentin George Louis Borges. Comment vous le prononcez, François? B-O-R-G-E-S?
Borges.
Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé à rouler le R. Le peintre canadien Alex Colville aussi, qui est né aujourd'hui. Évidemment, on se rappellera de René Lévesque. Il est né un 24 août. Voilà, alors ça complète pour les éphémérides.
Merci beaucoup. Elle est difficile aujourd'hui de faire abstraction de l'actualité politique. C'est ce qui domine et de loin l'actualité tout court. On commence avec la campagne électorale, mais pas avec la nôtre, avec celle qui a commencé au Nouveau-Brunswick, parce que le Nouveau-Brunswick aussi est en campagne électorale. Je vous rappelle qu'il s'agit officiellement de la seule province bilingue au Canada. Gabriel Bellan nous parle du débat des chefs. Élection au Nouveau-Brunswick. Pas de débat en français. Incapable de s'entendre avec tous les partis au Nouveau-Brunswick, Radio-Canada Acadie a dû se résigner hier à annuler son traditionnel débat des chefs en français dans l'unique province officiellement bilingue au pays. La nouvelle a été dénoncée avec véhémence par le principal groupe de défense des francophones dans la province qui y voit un recul important pour le français. La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB, écorche au passage le chef unilingue du Parti progressiste conservateur et demande aux diffuseurs publics de revenir sur sa décision. Je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve que Radio-Canada n'assume pas ses responsabilités de fournir un débat en français à la population acadienne du Nouveau-Brunswick. On représente le tiers des électeurs de la province, lance en entrevue Robert Melançon. L'homme ne décolérait pas hier. Il trouvait l'affaire d'autant plus insultante que les chefs de parti au Québec vont participer à un débat télévisé en anglais. Le Québec n'est pas officiellement bilingue, contrairement au Nouveau-Brunswick. Le diffuseur public a tout tenté pour présenter ce débat en français, explique Denis Robichaud, chef de l'information à Radio-Canada Acadie. Mais les partis n'ont pas réussi à s'entendre sur une formule en vue du scrutin du 24 septembre. Le hic, c'est que le chef du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ne parle pas bien français. Ce dernier a déjà proposé dans les années 80 de faire du Nouveau-Brunswick une province officiellement anglophone. Le printemps dernier, il a assuré que ses opinions avaient évolué. Le chef conservateur s'est mis à suivre des cours de français dernièrement. Avec sa femme, il a même passé du temps au Québec en immersion. Quand on a parlé au Parti progressiste conservateur, on nous a clairement indiqué que le chef ne pourrait pas débattre pendant 90 minutes en français, précise Denis Robichaud. Dans ces circonstances, Radio-Canada a proposé différents scénarios au parti, par exemple remplacer les chefs par des candidats. Tous les partis ont accepté, sauf le Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Celui-ci s'y est opposé mercredi dans une lettre envoyée à la Société d'État. Ce sera un débat des chefs ou rien. Après avoir vraiment tout tenté pour présenter un débat en français, Radio-Canada a jeté l'éponge hier. Allez, on change de province, mais pas de thème. La CAQ veut remplacer le CHSLD par la Maison des aînés. C'est Martin Croteau qui en parle dans la presse. La coalition Avenir Québec courtise le vote des personnes âgées vendredi en proposant de remplacer les CHSLD par un nouveau concept, celui de la Maison des aînés. Dans une vidéo rendue publique en matinée, le parti de François Legault lève le voile sur cette idée et la qualifie de projet d'une génération. Si la CAQ est élue, elle remplacerait les CHSLD que tout le monde redoute par des habitations de plus petite taille. Les unités de vie climatisées accueilleraient entre 70 et 130 personnes. Les établissements comporteraient des aires de circulation sécuritaires et verdoyantes où il fera bon vivre et le personnel serait assez nombreux pour prendre soin de tous les résidents. Aucun détail n'a encore été fourni sur les coûts d'un tel programme. François Legault fait campagne en Montérégie vendredi. Tiens, on connaît chez la CAQ celle qui éventuellement sera chargée de mettre en place ces maisons des aînés si jamais le parti remporte le scrutin. La CAQ a sa nouvelle candidate pour la santé, c'est Caroline Plante qui signe le texte. Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, présentera vendredi une candidate pressentie pour occuper le poste de ministre de la Santé au sein d'un éventuel gouvernement caquiste. Daniel McCann défendra les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Sanguinet, en Montérégie. Madame McCann est l'ancienne présidente directrice générale de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Une promesse du Parti québécois qui va sûrement soulager les parents cette rentrée scolaire, oui, le PQ propose la gratuité pour les fournitures scolaires, un texte d'Hugo Pilon-Larose. Après avoir proposé un programme de lunch abordable dans les écoles, le Parti québécois poursuit son offensive pour séduire les familles. Fini la course aux achats de matériel scolaire. Jean-François Lisée souhaite que les écoles s'en occupent, et ce, sans frais supplémentaires aux parents. Le chef péquiste lance sa deuxième journée de campagne électorale avec cette promesse à coup nul, dit-on, depuis la circonscription de Gouin, actuellement représentée par Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire à Montréal. Lorsque les parents reçoivent chaque année la liste du matériel scolaire à acheter, le plan péquiste prévoit qu'ils pourront demander à la commission scolaire de s'en occuper pour eux sans devoir débourser un sou. En résumé, pour les parents, ils auront le choix entre s'inscrire au tout prêt ou prendre le 100 $ actuellement offert et magasiner eux-mêmes, mais sachant que ça coûte souvent plus de 100 $ au magasin, explique-t-on au parti. Cette mesure, estime les péquistes, est à coût nul pour l'État. On prédit ici que les achats groupés pour des milliers d'étudiants permettront à l'État d'économiser. Mauvaise nouvelle pour les retraités de chez Sears. Philippe Tessera, le SAR, signe un texte intitulé « Des chèques amputés de 30 % ». Pour les retraités de Sears. Carole Hardy pensait pouvoir profiter de sa retraite pour décrocher après presque 30 ans sur le plancher d'un magasin Sears. Ces jours-ci, elle se prépare plutôt à décrocher une ligne téléphonique à répétition dans le centre d'appel d'un câbleau distributeur. C'est quoi la retraite qu'on a quand on est obligé de retourner travailler pour vivre, déplore-t-elle en entrevue. Comme les 18 000 autres salariés canadiens de l'enseigne, la Trifluvienne a reçu un chèque de pension amputé du tiers pour le mois d'août. Plusieurs centaines de dollars en moins chaque mois, dit-elle. L'origine directe de son retour au travail à 61 ans. Et le scénario du chèque amputé se répétera pour les mois à venir. La cause de cette retraite charcutée? Le déficit de 267 millions qui minait le fonds de retraite de Sears au moment de sa chute survenue en 2017-2018. L'entreprise canadienne en faillite, dont les derniers magasins ont fermé en janvier, avait profité de congés de cotisation dans la foulée de la crise financière de 2008. Le contrôleur de l'entreprise en faillite s'est dit obligé de réduire les pensions versées aux retraités de 30 % pour les 20 prochains mois, puis de 19 % pour les mois subséquents. « Je suis frustré. Je pense que c'est du vol à la cravate », s'est fâchée Mme Hardy devant la situation. « J'ai des consoeurs de travail qui ont été obligés de s'endetter, d'emprunter des sous pour continuer à fonctionner. » Elle souligne que les retraités ont aussi perdu leurs assurances collectives, dentaires, vie, médicaments, depuis quelques mois. Plus haut sur le Saint-Maurice, Pauline Godin était à la retraite depuis 18 ans, quand Sears a fermé ses derniers magasins au début de l'année. Elle avait commencé sa carrière comme caissière, mais l'avait terminée au service des ressources humaines. Larry Moore, porte-parole de l'Association des retraités de Sears, affirme que Mme Hardy et Godin sont loin d'être les seuls à voir leur vie chamboulée à partir de ce mois-ci. Lui aussi a subi la même perte. C'est possiblement une surprise pour une partie des retraités, a-t-il expliqué, soulignant tout de même les efforts importants de l'association pour informer ses membres. Les gens sont en colère, ils sont déçus, ils sont anxieux face à l'avenir. Il rappelle que la perte des assurances semble moins dramatique qu'une réduction directe du chèque de pension, mais tout fait aussi mal, notamment des aînés très âgés. Ça affecte le budget dans deux sens, moins d'argent qui rentre et plus de dépenses, a-t-il dit. Carole Hardy en veut aussi au gouvernement qui casse les oreilles des travailleurs afin qu'ils investissent dans leur retraite. « On investit là-dedans pour se faire dire après que ce n'est pas protégé », a-t-elle regretté. « Aujourd'hui, je n'ai pas le cœur de dire à mes enfants de mettre leur argent dans un fonds de pension, parce que c'est comme la loterie ou la bourse. Tu ne sais pas combien il va en rester quand tu vas vouloir l'utiliser. » L'Ontario a prévu dans son plus récent budget une mesure de protection pour les retraités de Sears. Les 1 500 premiers dollars de leur chèque mensuel sont maintenant garantis par le gouvernement provincial. Rien de tel n'a été mis en place au Québec. Courte pause et on revient avec Le Devoir et toujours la campagne électorale. Mmh.
plus en plus vite. Il s'aime encore, mais ne se le dise plus tellement souvent depuis déjà un bon moment. Ils ne le savent pas encore, mais demain, au réveil, rien ne sera plus jamais pareil.
Ben, c'était choisi en guise de bienvenue. C'était Welcome de Marc Derry, tiré de son album numéro 4 qui est sorti en 2011.
Le devoir aussi me tape sur les doigts, tiens, je le dis franchement, parce que, voyez-vous, j'ai un certain cynisme envers la campagne électorale, ce en quoi je pense que la plupart des gens me rejoignent beaucoup actuellement. C'est difficile, disons-nous, de s'y intéresser vraiment. Brian Miles nous rappelle en éditorial que c'est important. Alors, tout le monde, on écoute. Élection 2018, retrouver le sens de l'action civique. Pour faciliter la vie des Québécois maintenant, espérons qu'ils prennent les commandes de leur destin en faisant des élections 2018 les plus populaires de l'histoire récente. Sérieusement. Au départ de la campagne électorale, avant même de mettre le pied sur le terrain des idées, Le Devoir souhaite que les Québécois retrouvent le sens collectif de la participation civique. La démocratie est un système imparfait, mais c'est le seul qui soit perfectible pour autant que nous exercions notre droit de vote. Un droit fragile, comme en témoigne l'expérience de nombreux pays dans le monde à travers le temps. La démocratie relève davantage de l'exception que de la règle universelle. En 2017, l'indice de la démocratie publié par le magazine The Economist faisait état d'un recul marqué de la démocratie dans le monde. Un tiers de la population vit sous un régime autoritaire. 19 pays seulement, dont le Canada, étaient considérés comme des démocraties complètes. À peine 4,5% de la population mondiale vit donc dans ces conditions optimales que nous avons tendance à tenir pour acquises. La démocratie est en recul même dans les démocraties les plus anciennes, notamment en Europe et aux États-Unis. The Economist en veut pour preuve les lacunes dans le fonctionnement de l'État, la baisse de la confiance dans les institutions, la diminution de l'attrait pour les formations politiques traditionnelles, l'influence des lobbies, l'élargissement du fossé entre les élites et les citoyens, le déclin de la liberté de presse et des libertés civiles, sans oublier la baisse du taux de participation aux élections. Au Québec, le taux de participation était de 71,4 aux élections de 2014, soit à peine plus élevé que la moyenne des 20 dernières années, qui est à 70,57. Et il n'y a pas de quoi s'asseoir sur nos lauriers. Le directeur général des élections du Québec est préoccupé par le faible taux de participation chez les 18 à 35 ans. Environ un jeune sur deux se donne la peine de voter. Or, les 18 à 35 ans forment désormais 28 % de l'électorat. Si cette génération se mobilise, elle détiendra la proverbiale « balance du pouvoir » le 1er octobre. Il est temps pour cette cohorte de faire entendre sa voix là où elle aura le plus d'impact, dans le secret de l'isoloir. Ces jeunes ne sont ni apathiques ni désengagés de la chose politique, comme en attestent la vitalité et la finesse des questions qu'ils ont posées aux chefs des quatre partis lors d'un dialogue jeunesse organisé par l'Institut du Nouveau Monde et Le Devoir. Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, le chef du PQ, Jean-François Lisée, le chef de la CAQ, François Legault, et la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, se sont prêtés avec élégance et respect à ce dialogue. Espérons que les candidats des quatre formations montent dans leur caravane de campagne avec des idées en tête. Espérons qu'ils soient en mesure d'accueillir la critique citoyenne, même la plus acerbe, avec plus d'élégance qu'un Justin Trudeau imperturbable de mépris à l'égard d'une citoyenne qui a osé critiquer ses politiques migratoires. Espérons de la hauteur. Il le faut pour casser l'impression que la politique n'est que salissage, affrontement, antagonisme. Il le faut pour intéresser les citoyens d'aujourd'hui aux affaires de la cité, alors qu'ils ont la possibilité de s'investir dans une multitude de causes sociales en dehors de la politique et qu'ils ont l'embarras du choix dans les univers virtuels où se réfugier à l'abri de la réalité du Québec contemporain. Les électeurs de 2018 ont plus de choix qu'il n'y paraît à première vue. De Québec solidaire à la CAQ, le spectre gauche-droite est plus large qu'il ne l'était autrefois, du moins sur papier. En campagne, c'est connu, tous les partis cherchent à se rapprocher du centre juteux, terre d'éclosion des gouvernements majoritaires. Deux partis, le PLQ et la CAQ, ont fait leur nid douillet au sein du Canada. Deux autres, le PQ et Québec solidaire, croient toujours en la souveraineté du Québec, mais avec un degré d'empressement pour le moins variable. Le chef péquiste Jean-François Lisée propose de reporter dans un second mandat la tenue d'un référendum. À ce chapitre, les purs et durs devront cesser de lui reprocher sans cesse sa lecture lucide de la réalité. Les Québécois n'ont guère d'appétit immédiat pour la souveraineté. Monsieur Lisée l'a compris, lui, au moins. Cet état de fait ne relègue en rien la question nationale au rayon des archives. Elle reste profondément actuelle et elle doit s'incarner dans l'amélioration du système d'éducation au Québec, dans l'accessibilité aux études supérieures, dans la hausse de la diplomation, dans la lutte contre l'analphabétisme, dans l'intégration et la francisation des nouveaux arrivants, dans le maintien de l'exception culturelle francophone à l'ère du commerce électronique, dans la préservation du fait français en terre d'Amérique. Le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devra s'inscrire à son tour dans la longue tradition de défense de la social-démocratie à la québécoise, avec un rôle bien cadré de l'État pour répartir la richesse et aplanir les inégalités. Il devra veiller à assurer la pérennité du fait français dans un souci d'inclusion et de respect des droits des minorités et des Premières Nations. Bon, je parlais tantôt du stress des parents à la rentrée. Il y a une catégorie de parents encore plus stressés et c'est vraiment franchement angoissant ce qui les concerne. Rentrée scolaire angoissante pour les parents d'enfants allergiques. Amélie Daou-Boisvert. Pour les parents d'enfants allergiques, la rentrée scolaire de la semaine prochaine s'annonce plus angoissante qu'à l'habitude car la pénurie d'auto-injecteurs EpiPen se poursuit. La situation est si critique que le ministère de la Santé et des Services sociaux, conjointement avec les ordres professionnels des pharmaciens et des médecins, a autorisé l'utilisation d'auto-injecteurs d'épinéphrine périmés à certaines conditions. L'administration rapide est cruciale en cas de réaction allergique grave dans l'attente du transport vers l'urgence. Un choc anaphylactique peut tuer. Pfizer est le seul distributeur d'auto-injecteurs d'épinéphrine au Canada. La compagnie a fait savoir mercredi que les contraintes d'approvisionnement se poursuivraient à court et moyen terme. Une quantité limitée d'EpiPen, ceux de format adulte, sera rendue disponible en septembre. Les quantités attendues seront inférieures à ce qui est prévu pour répondre à la demande du marché, a précisé Pfizer dans un communiqué. Les stocks du format junior sont aussi de plus en plus limités. Même s'il est un peu plus facile d'en trouver que le format adulte, ça demeure une gymnastique, indique Patrick Boudreau, pharmacien et directeur des affaires externes et du soutien professionnel à l'Ordre des pharmaciens du Québec. L'Ordre n'a pas été mis au fait d'incidents ayant découlé de la pénurie qui touche le Canada depuis plusieurs mois. Plus les quantités diminuent dans les pharmacies, plus la situation devient risquée, constate M. Boudreau. C'est très insécurisant. La pénurie en contexte de rentrée ajoute une couche de difficulté, ajoute Marie-Josée Bethez. Elle est mère d'une jeune allergique et rédactrice en chef de Déjouer les allergies, un magazine et un groupe de soutien consacré aux allergies. Dans un message aux professionnels de la santé mardi, le ministère de la Santé demande aux pharmaciens de prioriser les patients qui n'ont aucun auto-injecteur en main et de limiter la distribution à un seul par patient. Si aucune autre solution n'est possible, une personne nécessitant un format adulte peut se voir octroyer deux auto-injecteurs juniors, mais ces derniers doivent être distribués en priorité aux enfants. Les pharmaciens sont aussi autorisés à recommander aux patients de conserver leur épipène après la date d'expiration si, après vérification, l'apparence du produit n'est pas altérée. Des études ont démontré, selon le ministère, que 90 % de la quantité initiale d'épinéphrine était toujours active 2 ans après la date d'expiration. Marco Belair Cirino nous parle du début de campagne de du Parti libéral. Le PLQ décoche ses premières flèches à l'endroit de la CAQ. Le chef libéral Philippe Couillard a profité de son premier arrêt de campagne jeudi pour sortir du placard son épouvantail préféré, l'instabilité. L'enjeu de cette élection est simple. Soit nous récoltons les fruits des efforts passés, soit nous compromettons des années de travail. Le choix se fera entre la stabilité et l'instabilité, entre le progrès et le recommencement, a-t-il déclaré lors du lancement de la campagne électorale du PLQ au domaine Cataraqui jeudi midi. Il a décroché ses premières flèches à l'endroit de la coalition Avenir Québec qui caracole en tête des sondages. Le Journal de Montréal après la pause.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Je serai aussi.
Vous aimez cette musique? Eh bien, c'est celle du garçon qui s'appelle Peter, un gars du lac. En fait, il vient de Jonquière et c'est sorti de son album une version améliorée de La Tristesse. On écoutait Les Chemins étoilés.
Honte à vous, Jonquière au lac. J'entends déjà les protestations au Saguenay, moi. Bon, dans les pages du Journal de Montréal, une victoire en justice pour une étudiante qui a besoin d'un chien d'assistance, discriminée en raison de son chien d'assistance, un texte de Laurence Auderoy. Le Tribunal des droits de la personne vient d'octroyer 3 000 $ en dommages à une étudiante montréalaise qui s'était vue refuser un logement en raison de la présence de son chien d'assistance. « Je suis satisfaite du jugement », a indiqué la jeune doctorante en sciences politiques à l'UQAM. « Plus on parle de ce type de problème, plus la population est éduquée et moins ces situations vont se produire. » Élisane Pellerin est atteinte de paralysie cérébrale avec quadriplégie spastique. C'est pourquoi elle utilise un labrador croisé à un bouvier bernois de la Fondation Mira depuis 2012. Sonny l'aide notamment à tirer son fauteuil roulant et à soulever certains objets trop lourds. En 2014, Élisane Pellerin est à la recherche avec sa colocataire Marianne Charon d'un appartement dans la métropole où elle venait poursuivre ses études. Elle finit par trouver l'appartement qui correspond à ses besoins dans un immeuble de la compagnie Viglione et Frères. Leur demande de location est analysée par le fondateur de la compagnie, Antonio Viglione, âgé de 89 ans, qui la rejette en statuant que les chiens ne sont pas acceptés dans l'immeuble. Les deux dames sont immédiatement informées du refus. Elles expliquent aux responsables de l'immeuble qu'il est illégal de louer en raison de la présence d'un chien d'assistance ou de refuser de le faire. Mais rien n'y fait. Selon le jugement, dès le lendemain, le fils du fondateur, Mario Viglione, actionnaire et secrétaire de la compagnie, a pris connaissance du dossier et de la méprise de son père qui n'aurait plus qu'un rôle limité dans l'entreprise. Il dit avoir alors demandé à une secrétaire de contacter les jeunes femmes pour les informer que leur demande était acceptée. Cette dernière a témoigné avoir contacté l'une des deux colocataires et assure avoir reçu comme réponse « Je vous reviens ». Comme on n'a pas mentionné lors de l'appel que le chien était finalement accepté et qu'elle était incapable de dire à qui elle a parlé et à quel moment, le tribunal n'a pas accepté la preuve de la défense. Élisane Pellerin et Marianne Charon, qui ont d'ailleurs indiqué au tribunal n'avoir jamais reçu cet appel. L'avocat de Viglione et Frères, maître Anthony Francicello, a indiqué qu'on ne portera pas le jugement en appel. C'est un appui délicat ou un refus d'appui encore plus délicat. L'industrie pétrolière préfère quel parti dans l'élection qui s'en vient? Et si je vous dis un parti, est-ce que ça va vous inciter plutôt à voter pour l'autre? Enfin, une réaction des pétrolières aux normes sévères. Un texte de Patrick Bellerose. L'appui du président de l'Association pétrolière et gazière du Québec au groupe Québec Fier démontre que l'industrie est mécontente des restrictions imposées par le gouvernement Couillard, estime le ministre Pierre Moreau. Je pense que l'industrie a réagi à l'édiction de règlement et elle indique qu'elle n'est pas très heureuse avec ce que nous avons fait, a commenté le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles hier matin. Notre bureau parlementaire a révélé que Michael Bignon, également président de la firme albertaine Questair, a tenu une conférence téléphonique il y a un mois pour inviter d'autres entreprises de l'industrie pétrolière et gazière à appuyer Québec Fier, un groupe qui cherche à faire tomber les libéraux aux élections du 1er octobre. Selon deux sources présentes, le président de l'APGQ a également invité les entreprises à financer Québec Fier et le lancement de New Brunswick Proud via un OBNL nommé Modern Miracle Network. En entrevue, Michael Bignon a reconnu avoir tenu cette conférence téléphonique afin de présenter Québec Fier et Ontario Proud, mais a refusé de commenter les appels au financement. Le gouvernement Couillard a récemment édicté une série de règlements qui limitent grandement les possibilités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures au Québec, notamment dans les cours d'eau. Et je vous rappelle qu'à titre légal, il est formellement interdit aux sociétés de tenter de financer une activité politique en dehors de la loi électorale du Québec, d'où la prudence du président de Québec Fier. « Ah, Marie-Ève Dumont m'a inquiété ce matin. Elle nous apprend, et c'est le titre de son texte, « Traces d'herbicides dans les céréales et barres tendres ». Des résidus de l'herbicide le plus utilisé au monde ont été trouvés dans des céréales et des barres tendres préférées des enfants en vente chez nous, rapporte une étude américaine. L'Environmental Working Group, un organisme dédié à la protection de la santé humaine et de l'environnement, a testé 45 échantillons contenant de l'avoine pour y détecter la présence de glyphosate, l'ingrédient actif de l'herbicide Roundup commercialisé par le géant des biotechnologies Monsanto. Des traces de glyphosate ont été trouvées dans 95 % des échantillons testés. Plusieurs de ces produits viennent de marques bien connues. Les plus récentes analyses menées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont rapporté que 36,6% des produits de grains testés contenaient des traces de glyphosate. Ce produit est considéré comme probablement cancérigène selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est également pointé du doigt comme perturbateur endocrinien, soit qu'il affecte le système hormonal. Toutefois, il existe très peu de données sur l'effet de cet herbicide par l'alimentation à petite dose à long terme, selon Maryse Bouchard, professeure à l'École de santé publique à l'Université de Montréal. On peut dire qu'il y a des inquiétudes du fait que le glyphosate est tellement utilisé. On en consomme dans plusieurs produits, mais on en sait très peu sur les risques, explique-t-elle. Le glyphosate est cependant ciblé un peu partout dans le monde comme responsable de cancer. Il y aurait 400 procès en cours aux États-Unis pour des cas de cancer non-hodgkinien, dont la cause visée serait le glyphosate, selon Louise Vandelak, directrice du collectif de recherche Éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. Une pause et on revient avec le volet culturel de l'émission.
T'écris dans mon duotang. On serait tous ici à cause d'un Big Bang, comme dans les westerns américains. Quand le méchant meurt à la fin, comme si la vie s'était pointée avec l'envie de tuer. Hey! America, America, les nuages boudent comme les personnages de Clint Eastwood. America, America. Une autre fusillade a éclaté et les malades ne savent pas où aller. Heureusement, les seuls qui sont touchés sont ceux sous le seuil de la pauvreté. Comme si la vie était un domaine privé pour les amis du banquier. America, America, les gens sont stigmates et l'argent est à droite. America, America. C'est le bout de ma tune ou que je parle vite pour que je puisse pas t'épidoune dans un vidéoclip. Parce que l'industrie du disque a perdu goût du risque. On nous revend les refrains de 1980 avec de jolies voix et de jolis minois. On vendrait n'importe quoi, ben quoi, j'ai-tu vraiment le choix pour que ce soit mon tour à un moment donné de vous parler d'amour. Il paraît qu'il faudrait que ma shit gang des concours. Fait que je gratte ma guitare encore plus fort. Ouais, mais mes blues passent plus nulle part, même plus d'un bord. So, do you know? Qui turn down quand j'fais m'cameround. I'm so sad, it's so bad. Pis mon appart est so crade. J'me dis que j'devrais faire le ménage, mais je le fais pas. Un peu comme America, America. America, America. Mais dis que bientôt ça sera le fun si les les radios francophones pouvaient mettre plus de stock en français, ça serait hot. On pourrait faire en sorte que notre culture perdure et qu'elle se transporte encore à travers les portes de nos champs. Et puis c'est comme par accident que les hommes d'Occident ont découvert l'Amérique à la recherche des puces. Et depuis, ça prend un gun pour devenir un homme. Ça prend un homme pour devenir un gun. C'est pas un rite et c'est dommage. C'est un rite de passage pour se défendre et apprendre l'art de faire du tort. Même si le corps de ta population est tout nu dans la rue. Mais que voulez-vous, c'est ça qui est ça. Alléluia! Bienvenue, America. Alright. America, America. Welcome to the hotel, America. Hey!
C'est vraiment bien fait, ces textes. Vous aurez reconnu Émile Bilodeau, la chanson « America » et c'est tiré de son album « Rite de passage ».
Oui, bon, je sais, j'avais annoncé les nouvelles culturelles, mais vous ne perdez rien pour attendre puisque je vais d'abord vous parler des régions. Puis, si vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes en région. On commence à Sherbrooke, où on invite le Québec à s'inspirer du Nouveau-Brunswick. En quoi? Eh bien, dans le sujet qui inquiète probablement le plus les parents d'enfants qui ont à vivre avec un handicap, l'intégration scolaire. Isabelle Pion, La Tribune. Le Québec a des leçons à tirer du Nouveau-Brunswick en matière d'intégration des élèves handicapés. Le Québec a beaucoup à apprendre de leur structure, de leur mode de fonctionnement, commente Nadia Rousseau, professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au Nouveau-Brunswick, c'est probablement la première ou la deuxième province où il y a le plus d'expérience en matière d'inclusion, commente celle qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont « La pédagogie de l'inclusion scolaire ». La Tribune racontait mercredi l'histoire de Maxime Bourgardion, un commissaire de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, qui a fait le choix avec sa conjointe de déménager au Nouveau-Brunswick afin de donner de meilleures chances à leur fillette présentant une déficience intellectuelle légère. M. Bourgardion a annoncé mardi qu'il démissionnait de son titre de commissaire. Il a du même coup remis en question les façons de faire de l'organisation en matière d'intégration des élèves en situation de handicap, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, et les lacunes du système scolaire québécois. Il estime que le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qu'il a rencontré en mai dernier, ne propose rien de concret en termes d'inclusion. En dépit de leur déménagement prochain, l'élu démissionnaire et sa conjointe ont demandé une révision de décision à la commission scolaire dans le dossier de leur enfant. Le couple souhaitait que leur fille de bientôt 6 ans soit intégrée en classe régulière plutôt que dans une classe spécialisée de l'école Larocque. Il réclamait aussi la mise en place d'un plan d'intervention avant la rentrée scolaire. Les élus scolaires ont maintenu à l'unanimité la décision de placer l'enfant dans la classe de retard de développement. La résolution adoptée mardi soir prévoyait toutefois d'entamer la démarche menant à l'élaboration du plan d'intervention dès l'automne. Majoritairement, lorsqu'on s'intéresse à cette question, la classe spécialisée doit constituer le dernier choix et non le premier, fait remarquer Mme Rousseau. Celle-ci dit comprendre le choix de parents de vouloir une classe régulière. Les enfants gagnent beaucoup au plan social et au niveau du développement de langage en fréquentant les classes régulières. Mais ça ne veut pas dire que dans le parcours, la classe spécialisée ou programme individualisé ne se mettra pas en place. On parle souvent du secondaire, je dirais même au deuxième cycle. Mme Rousseau est directrice du réseau Réverbère qui s'intéresse aux meilleures pratiques à travers le pays. Elle note que le Québec est très ancré dans une structure médicale. Dans les approches plus inclusives, on valorise beaucoup le vivre ensemble, apprendre ensemble, respecter les forces de l'un et les limites de l'autre, davantage que l'approche plus médicale où, à partir d'un diagnostic, on va prendre une décision. Le cri d'alarme, c'est bien qu'il l'ait fait. On a beau dire que oui, on veut intégrer davantage, il faut mettre en action. La politique de réussite éducative déposée par Québec, elle nomme l'inclusion scolaire pour la première fois. Il y a un peu plus de leadership, c'est un pas dans la bonne direction. Afin de mettre en place les conditions favorisant l'inclusion, un mécanisme devrait être mis en place pour valoriser les commissions scolaires qui vont vers cette voie, croit Mme Rousseau. Elle rappelle que ce sont les commissions scolaires qui organisent les services et leur façon de faire ne sont pas toujours en ligne droite avec les politiques de Québec. Celles-ci devraient pouvoir garder leur couleur locale tout en étant cohérentes avec les approches ministérielles. En entrevue avec La Tribune, M. Bourgardion faisait remarquer que la politique d'adaptation scolaire québécoise comporte plusieurs anachronismes. Celle-ci a été dévoilée en 1999. C'est une politique qui date. Ce qu'on trouve souvent, c'est que les élèves en situation de handicap ou avec des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation peuvent être en classe régulière si ça ne dérange pas les autres. Image, Mme Rousseau, en notant qu'une telle approche ne rejoint pas la philosophie plus inclusive. Tous les journaux du Québec ce matin se demandaient quelle mouche avait bien pu piquer Maxime Bernier. J'ai choisi pour vous en parler le texte de Mylène Crête de la presse canadienne publié dans Le Soleil. Maxime Bernier quitte un parti conservateur trop corrompu moralement. Le député Maxime Bernier claque la porte du parti conservateur pour tenter de fonder sa propre formation politique. Au cours de la dernière année, j'en suis venu à la conclusion que ce parti est trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé, a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. Le député de Beauce avait convoqué les médias à une conférence de presse à Ottawa jeudi alors que ses ex-collègues se réunissaient à Halifax en congrès. Il accuse son ancien parti d'avoir abandonné les conservateurs sous la gouverne d'Andrew Scheer et va même jusqu'à suggérer que son ancien chef n'a pas de vision. Le Parti conservateur, selon lui, ressemble de plus en plus au Parti libéral. Toute la stratégie du parti repose sur la politique identitaire, le racolage de divers groupes d'intérêts et l'achat de votes avec des promesses exactement comme le font les libéraux, a-t-il avancé. M. Scheer, selon lui, ne défend pas de réelles idées conservatrices. Un exemple? L'abolition du cartel de la gestion de l'offre, une politique anti-libre-marché et contre les consommateurs qui fait obstacle, selon lui, à la conclusion d'un nouvel accord de libre-échange avec l'administration Trump. Ils mettent à risque 20 % de notre économie pour 19 000 producteurs agricoles, a-t-il résumé en parlant des libéraux et de son ancien parti. Je n'arrive pas à y croire. Il accuse le Parti conservateur d'éviter ce débat difficile, tout comme celui qu'il a tenté de soulever par ses récents gazouillis sur la diversité et le multiculturalisme. « Le gouvernement Trudeau met de l'avant la diversité, et je ne suis pas contre », a-t-il précisé. « Mais le but doit être la diversité et l'unité. » Et il dit avoir décidé de fonder son propre parti qui n'a pour l'instant pas de nom après une conversation avec M. Scheer. Les deux hommes se sont parlé il y a 9 jours, soit peu de temps après les premiers gazouillis de M. Bernier sur l'immigration. Après avoir tenté durant 1 an sans succès de faire valoir ses idées au sein de son parti, le député dit qu'il en a eu ras-le-bol. Il estime que plusieurs autres Canadiens partagent ses idées. Il cite comme preuve le fait qu'il a payé la dette qu'il a accumulée lors de la course à la direction du parti en un temps record. Il dit souhaiter que les électeurs de Beauce continuent de le soutenir lors des prochaines élections fédérales. Il avait alors récolté près de 59 % du suffrage en 2015, loin devant son adversaire libéral. M. Bernier compte fonder son parti rapidement avant la reprise des travaux parlementaires le 17 septembre. Entre-temps, il siégera comme député indépendant à la Chambre des communes. Gertrude Bourdon est toujours au centre de l'intérêt, principalement des partis qu'elle n'a pas choisis. Gertrude Bourdon, le symbole de l'indécence politique, critique lisée, un texte de Patricia Cloutier dans Le Soleil. La PDG du CHU de Québec, Gertrude Bourdon, est devenue le symbole de l'indécence politique selon le chef péquiste Jean-François Lisée. Le chef caquiste François Legault réclame quant à lui des explications. La candidature de Mme Bourdon pour le Parti libéral dans Jean Lesage a semé la controverse au premier jour de la campagne électorale. Mme Bourdon a tourné le dos à la CAQ en début de semaine pour choisir de se lancer avec le Parti libéral. Sa candidature sera confirmée vendredi. M. Lisée n'a pas été tendre envers la nouvelle recrue libérale. Je trouve ça déplorable. Selon lui, ce type de volte-face, c'est pas sérieux et c'est un signe du vide des convictions. M. Lisée fait également ressortir que cette situation montre l'absence de différence fondamentale entre la CAQ et le PLQ, qui compte plusieurs candidats ayant flirté avec l'autre parti avant de faire un choix définitif. Pressenti pour devenir ministre de la Santé, Mme Bourdon a quand même été courtisée par les trois principaux partis à l'Assemblée nationale. M. Lisée a soutenu que du côté du PQ, il s'agissait seulement de discussions préliminaires datant de plusieurs mois. La députée de Taschereau, Agnès Maltais, a contacté Mme Bourdon l'hiver dernier alors qu'elle cherchait quelqu'un pour lui succéder dans sa circonscription du centre-ville de Québec. M. Lisée a expliqué qu'à ce moment, Mme Bourdon a dit à Mme Maltais qu'elle était péquiste. Mais il se pose des questions aujourd'hui sur ce que la gestionnaire en santé a dit aux autres partis. Sans condamner celle qu'il pensait avoir dans son équipe il y a quelques jours, M. Legault comprend mal comment elle peut être à l'aise avec les conditions salariales actuelles des médecins spécialistes. Pourquoi elle accepte que dans le même hôpital, il y a des médecins spécialistes qui gagnent plus que leurs homologues en Ontario, alors qu'il y a des infirmières qui gagnent moins que leurs homologues en Ontario, demande-t-il. Rappelons que la CAQ a promis de déchirer l'entente que le gouvernement Couillard a signée avec les médecins spécialistes afin de réinjecter l'argent qu'il sera allé chercher dans le réseau de la santé. M. Legault a eu trois rencontres privées avec Mme Bourdon. Sans dévoiler le contenu des discussions, M. Legault dit comprendre que Mme Bourdon n'était pas d'accord avec nos priorités en santé. « Il est clair pour tout le monde que c'est une candidature remarquable », a quant à lui commenté le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, lorsque questionné sur le choix de Mme Bourdon. Donnant peu de détails sur la façon dont le PLQ l'a convaincu de faire équipe avec lui, M. Couillard a assuré qu'il ne s'était pas livré à un jeu de surenchère avec la CAQ afin de mettre le grappin sur elle. Il dit comprendre toutefois que M. Legault soit très déçu de ne pas l'avoir convaincu. Le cannabis n'est pas encore légal et même quand il le sera le 17 octobre prochain, vous n'aurez pas plus le droit d'en faire pousser et d'en vendre sans un permis. Alors la police frappe. Importante saisie de cannabis à Champlain. Laurence Chartrand dans le Nouvelliste. L'approche à grands pas de la légalisation de la marijuana au Canada n'arrête pas pour autant les policiers de faire respecter la loi en place. La Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada procèdent actuellement à une saisie d'au moins 10 000 plants de cannabis à Champlain. C'est à bord d'un hélicoptère des Forces armées canadiennes que les policiers ont pu identifier une centaine d'îlots où sont regroupés les plants. Une trentaine de policiers sont déployés sur le terrain pour l'opération qui devrait se poursuivre jusqu'en fin de journée. Vers 15 heures jeudi, la SQ avait couvert environ le tiers du territoire pour cette opération et avait saisi 4 500 plants de cannabis. Bien que ces saisies font partie du travail de routine des policiers à la fin de chaque été, la SQ affirme que celle-ci est particulièrement importante vu sa concentration sur une zone en particulier. À chaque été, c'est le temps des récoltes, donc on va éradiquer, explique Héloïse Cossette, porte-parole de la SQ. Là, il y en a beaucoup pour une zone restreinte. La Sûreté du Québec n'a procédé à aucune arrestation en lien avec cette opération. Et cette fois, c'est vrai. Après la prochaine pause, on vous parle de culture.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
C'est comme une envie de t'amener avec moi pour un On serait dû voir les cheveux dans le vent, sans qu'on ait rendu plaisant. J'ai comme une envie de t'amener avec moi pour le plus beau des moments. Une balade qui finira plus, on est gros de ces bons temps. Parti sur une chaise, sur un chantier pour se sentir vivant. C'est une invitation à faire le pire, on est meilleur insouciant. Quand même ben qu'on se pèterait les dents pour faire sortir le méchant. On est perdu, puis on aime ça, puis mais c'est pas important. Une grande virée à ciel ouvert, on va pas lever la poussière. Pas de boussole, tout est à l'envers.
On sent la voix qui craque légèrement, musique très entraînante de Canaille, la chanson « Rendez-vous galant ».
Allez, personne n'avait saisi le projecteur. Le projectionniste, lui, devait penser qu'il allait être payé et les fauteuils n'avaient pas été vendus. Donc, le Festival des films du monde a pu commencer hier comme prévu. C'est toujours étonnant, ça. Sujet rare, cinéaste débutant au Festival des films du monde, un texte de Jérôme Delgado. Sans les descriptions des œuvres, mais avec une programmation complète et avec un jury, le Festival des films du monde a démarré jeudi soir. Il manquait aussi ce lustre digne d'une cérémonie d'ouverture, notamment parce que le cinéma impérial était loin d'afficher complet. Serge Lozic, l'éternel président de cette fête en perte de vitesse, est apparu dans sa verve habituelle, lançant des flèches à ses détracteurs. « On m'enterrait mille fois et ça prouve qu'on peut vivre mille fois », a-t-il dit avant de dévoiler la composition de son jury. Le groupe formé de 5 membres sera présidé par Silvio Caiozzi, lauréat du Grand Prix des Amériques 2017. Le cinéaste chilien est monté sur scène pour affirmer que le festival est le seul véritable festival indépendant qui ne jure que par la qualité cinématographique. L'argent, le saut d'Hollywood, la couleur politique ne comptent pas à Montréal, selon lui. Les jurys, tous des hommes, à moins que le nom gardé secret concerne une femme, n'ont pas tous fait le voyage. Le plus connu d'entre eux, Pierre-Henri Delot, pendant 30 ans à la barre de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, est resté en Europe. Le seul autre membre présent ici est le critique montréalais Élie Castiel et par ailleurs programmateur de ce 42e festival. À noter que la programmation au cinéma du Quartier Latin a finalement été mise en ligne. Les festivaliers ne peuvent cependant acheter des billets qu'à l'unité au plein prix à $13.50. Des premiers films, des cinéastes inconnus, des choses qu'on ne voit nulle part, tous ces justificatifs portés à la défense du Festival des films du monde correspondent au documentaire Campesino de l'actrice et productrice Mia Tête, Or, ce premier long métrage peut aussi servir de cas de figure du saut dans l'inconnu que le festival réserve à ses invités. Arrivé en ville la veille de l'ouverture de la 42e édition du festival, Mia Tate ne connaissait toujours pas, 24 heures plus tard, où et quand la première canadienne de son film aura lieu. Elle demeure cependant affable et confiante, portée par l'excitation de pouvoir rencontrer son public et répondre à des questions. Je m'attendais à recevoir plus d'informations que ce que j'ai reçu. J'espère que j'en aurai plus jeudi soir, dit celle qui a appris qu'elle ferait le festival il y a 8 semaines. En soirée, son film est apparu dans la programmation du Quartier Latin. Une seule projection, vendredi à 16h30. Projeté pour le moment uniquement dans des cadres intimes de musées, Campesino entreprend son parcours de festival à Montréal. Mia Tate a choisi le Festival des films du monde pour la longévité qui fait, soutient-elle, sa réputation. C'est la 42e édition. Ça m'impressionne, dit-elle. Nous aussi. Pierre Lapointe, rocker malpropre. C'est un texte de Philippe Renaud. Avez-vous déjà imaginé comment pouvait sonner Pierre Lapointe lorsqu'il chante fâché? Ça sonne comme « Là, j'aime bien quand tu pleures. Vas-y, pleure, je suis pas un imbécile. Tu ne me feras pas pleurer », hurle-t-il dans ce brûlot quasi-punk de 70 secondes. L'une des 11 nouvelles chansons de « Ton corps est déjà froid », un ovni rock garage paraissant vendredi. Du cul, du sang, des viscères et beaucoup de fun éclaboussé sur ce disque surprise exutoire enregistré avec ses 4 musiciens, les Beaux Sans Cœur. On le sait prolifique, jamais à court d'idées musicales ou conceptuelles. En 20 ans de carrière, Pierre Lapointe est même parvenu à nous habituer à l'improbable. Rappelez-vous les concerts Mutantes en 2008 ou Amour, délice et orgue en 2017 présentés au Franco de Montréal. Or ça... Les 32 fracassantes minutes de son 8e album studio, dont l'album de reprise Paris Tristesse, on ne l'avait pas vu venir. Pourtant, je suis un enfant de Blur, de Pulp, des Ramones, un enfant de Bowie et de Violent Femmes, assure Pierre Lapointe, en racontant la genèse de cet album, paraissant moins d'un an après le sophistiqué « La science du cœur ». Ton corps est déjà froid a été composé en même temps que ce précédent album, ainsi qu'un troisième déjà terminé, complètement différent des deux autres et qui arrivera sans doute lui aussi sans prévenir. J'écrivais des chansons, plein de chansons, et j'ai réalisé qu'elles appartenaient à 3 projets différents, explique Lapointe, qui n'a eu besoin que de 3 sessions de studio avec son complice de toujours, le réalisateur et multi-instrumentiste Philippe Brault, pour accoucher de ce monstrueux disque de chansons rock, trash et tendre à la fois, lubrique et sanguinaire, pour lequel un graphiste américain a conçu de petits gifs vicieux accompagnant chaque chanson. « Le gars pleurait de rire de devoir dessiner pour une chanson sur la sodomie », lance Pierre Lapointe en rigolant. « Ton corps est déjà froid, un disque garage, défoulatoire et queer ». Quand j'ai commencé à écrire ce disque, je me suis dit « c'est un film de John Waters ». Réalisateur culte des films Hairspray et Pink Flamingos, avec le personnage qui se drogue, le gars qui vient de tromper son chum avec une femme. On ne sait plus si le personnage qui parle est gay ou pas, un gars ou une fille, triste ou désabusé. Comprenez, on n'est pas en rupture totale avec l'ambiance étudiée de La science du cœur. Ça casse l'image. Arriver avec un projet comme ça, totalement libre et totalement « je m'en fous, on le fait pour le fun », avec ce niveau d'écriture, ce genre d'énergie et ce genre de concept visuel, après tout ce que j'ai fait, les Français comprennent pas. Ça risque pour eux d'être plus une curiosité, un peu comme ici d'ailleurs, concède Lapointe qui passera justement l'automne à Paris à bosser sur 1000 autres projets. Mais ça m'a fait du bien de faire « Ton corps est déjà froid » parce que le travail que j'ai fait avec David, François Moreau, compositeur français, collaborateur du précédent album, était très célébral. Ça, j'appelle ça mon vomi de cerveau. Ça m'a fait du bien de faire « Ton corps est déjà froid ». J'étais déjà assez déprimé au moment d'écrire l'album, il y a maintenant 3 ans. Je me suis parlé à moi-même pour me dire « La déprime, ça ne me ressemble pas du tout, parce que j'ai toujours eu du plaisir à faire mon métier, à travailler avec des gens extraordinaires, comme ces beaux sans cœur, Bro, José Major, Nicolas Basque et Vincent Legault. Rien à voir avec la télé de la reconnaissance populaire qui vient avec elle, mais cette période de déprime coïncidait avec son rôle de juge à La Voix. » Il y a de l'argent disponible pour permettre aux élèves de faire des sorties culturelles, mais trop d'écoles, trop d'enseignants l'ignorent. Catherine Lalonde nous en parle, un texte intitulé « Un secret bien gardé en culture ». Deux nouvelles mesures gouvernementales, écoles inspirantes et sorties scolaires en milieu culturel, sont inscrites aux règles budgétaires 2018-2019 et dégagent au moins 27 millions pour faciliter les sorties scolaires québécoises. Mais la majorité des enseignants ne le savent pas, au point où le regroupement de scènes en musée estime nécessaire de déclencher une campagne médiatique pour en informer les professeurs et tenter par la bande de sauver une part de la saison des spectacles jeunesse. On publie un communiqué de presse pour dire aux enseignants que ces quatre mesures méconnues existent et pour multiplier les communications, indique Jean-Philippe Joubert, porte-parole du regroupement. Ce regroupement de cinq organismes artistiques de Québec qui se consacre depuis 1998 à la diffusion des arts et de la scène en milieu scolaire. Le gouvernement, cet été, a bougé. Il s'est mobilisé pour que les jeunes aient accès à la culture et aux activités d'éducation. Mais étrangement, l'information a très peu circulé. Je ne comprends pas pourquoi. Poursuit celui qui est aussi directeur du théâtre Les Gros Becs. Pourquoi l'information sur la mesure école inspirante n'est pas sortie pendant l'été? Autrement que par les chemins très officiels à plusieurs étapes du ministère de l'Éducation aux commissions scolaires, des commissions aux directions d'école, des directions aux enseignants. Cette toute nouvelle mesure, rendue publique le 1er juillet et dotée d'une enveloppe de 27 millions, offre un montant pour les activités et sorties éducatives des élèves du primaire et du secondaire, au choix de l'école. Les fonds peuvent être utilisés pour en payer les coûts ou pour bonifier le financement du ministère de la Culture. La mesure, financée par crédit budgétaire du ministère de l'Éducation, sera récurrente, assure le ministère. « C'est un montant appréciable », commente M. Joubert. « Chaque fois qu'on met un million, on calcule à peu près que ça veut dire un dollar par enfant. 27 millions, c'est probablement un assez bon montant, mais il faut encore comprendre comment il peut s'articuler avec les autres mesures. » Car s'y ajoute sortie scolaire en milieu culturel, oui. Cette proposition de mesure est en voie d'approbation et les modalités seront très prochainement annoncées au réseau, indique le ministère. On ne connaît pas encore le montant qui y est attribué ni sa répartition, précise M. Joubert. Ils seront dévoilés au cours des prochaines semaines, mais la mesure est dans les règles budgétaires des commissions scolaires. Ce que fait le regroupement, c'est de célébrer la réaction, et c'est rare qu'on le fait, et regrouper les informations, parce qu'il reste du travail à faire pour simplifier la vie des enseignants. Allez, on se donne un coup de vieux tout le monde. Yves Leclerc dans le Journal de Montréal nous signale que lundi, Hey Jude aura 50 ans. Hey Jude aura 50 ans ce lundi. La célèbre chanson des Beatles a été lancée en 45 tours le 26 août 1968 en Amérique du Nord et 4 jours plus tard au Royaume-Uni. 6 choses à savoir sur le tube des Fab Four. L'inspiration d'abord. Paul McCartney a écrit la pièce Hey Jude après avoir réconforté Julian Lennon, 5 ans, dont les parents John et Cynthia Powell venaient de divorcer. Sir Paul s'est rendu à leur domicile de Weybridge en Angleterre et c'est dans sa voiture sur le chemin de retour que la chanson a pris forme. La version finale de Hey Jude a été enregistrée le 31 juillet 1968 sous la direction de George Martin au studio Trident à Londres lors des sessions de l'album Blanc. La première des 4 prises a été sélectionnée. Les Beatles avaient répété la pièce et enregistré 25 prises, mais on a retenu les premières. George Martin n'était pas du tout certain que Hey Jude, avec ses 7 minutes 11 secondes, était pour obtenir de la diffusion à la radio. John Lennon lui a répondu tout simplement que c'était une pièce des Beatles et que les radios étaient pour la faire jouer, peu importe sa durée. Hey Jude devait à l'origine être la phase B du 45 tours Révolution, mais Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr se sont opposés à la suggestion de John Lennon. Ce 45 tours a été le premier simple sur l'étiquette Apple Records des Beatles. Hey Jude a été le numéro 1 dans 11 pays et ce fut le plus gros succès mondial des Beatles en 45 tours. Le simple, qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, se retrouve sur de nombreuses listes des plus grandes chansons de tous les temps. En nomination 3 fois aux Grammys, dans les catégories Disque de l'année, Chanson de l'année et Meilleure performance pop par un duo ou un groupe contemporain en 69, Hey Jude n'a rien gagné. Le magazine New Musical Express a consacré la pièce Meilleur simple de l'année en 1968. Une toute petite pause et on revient avec les nouvelles plus légères.
Pour moi, hey, yeah, je me ferai roi.
musique de Vilain Pingouin. C'est un clin d'œil que je vous ai adressé, François. Viva l'élection!
Oui, effectivement. Dans le Journal de Montréal, Valérie Chouinard nous parle de deux jeunes qui ont pédalé beaucoup. Traverser le Canada à vélo pour une bonne cause. Victor Légaré et Vincent Boutin, deux jeunes de 18 ans de la région de Québec, ont traversé le Canada à vélo dans le but d'amasser des fonds pour la Fondation Élan, qui vient en aide aux personnes qui reçoivent les services de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Le défi était grand, surtout pour Victor, qui a une dyspraxie visuo-spatiale depuis sa naissance. C'est une déficience physique qui rend complexe l'exécution des gestes moteurs, donc tous les gestes du quotidien. Une dyspraxie motrice est une atteinte neurologique, développementale, qui est là dès la naissance. On a à apprendre de A à Z des mouvements qui sont difficiles à acquérir, a expliqué le médecin et ancien ergothérapeute de Victor, Martin Pelletier. C'est un peu comme si toutes les tâches dans la vie de tous les jours, vous n'aviez que des gants d'hiver pour les faire. C'est sûr que ça vient compliqué, sauf qu'en même temps, je vis avec depuis que je suis tout petit. J'ai donc plus de difficultés à faire certaines choses, mais je finis toujours par passer au travers, a témoigné Victor Légaré lors d'une activité d'accueil jeudi à l'Institut, endroit qu'il a lui-même fréquenté lorsqu'il était enfant. J'y ai appris à lasser mes chaussures, à couper mes choses dans mon assiette comme du monde, et le plus important pour moi, c'était d'apprendre à faire du vélo, alors que certains croyaient que ce n'était même pas possible. 10 ans plus tard, il réalise la traversée de sa vie avec son meilleur ami, 6300 kilomètres entre Victoria et Halifax en 70 jours. « Quand je suis arrivé avec ma remorque, mes deux sacoches, 70 livres de stock, l'équilibre, c'est sûr que c'était plus compliqué, mais il faut regarder devant et finalement on est arrivé à bon port. » Leur exploit a permis d'amasser 5 000 $. C'est un peu le retour du balancier, c'était important de redonner à la Fondation Élan. Allez, il y a un concours organisé dans le cadre des élections et pas seulement pour désigner un premier ministre et éventuellement un ministre de la Santé. Le Parti québécois organise un concours pour trouver un nom à son autobus. C'est Michael Labranche qui en parle dans le Journal de Montréal. Après que l'autobus de campagne du Parti québécois a fait tant parler de lui, il semble que les péquistes aient décidé de prendre la balle au bon et d'organiser un concours pour lui trouver un nom. Comme vous l'avez constaté, notre bus artistique a beaucoup fait jaser dans les derniers jours. Peut-on lire sur la page Facebook du parti? On vous propose de lui trouver un nom et le meilleur sera utilisé pour le reste de la campagne électorale. Sérieusement, ajoute le parti en incluant soigneusement son slogan. Un formulaire est disponible sur le site web du PQ pour faire une suggestion. Et rappelons que cet autobus très haut en couleur est effectivement une première dans la tradition politique québécoise. Laisser tomber pour vivre dans un van. Nadia Lemieux nous parle d'un couple qui l'a fait. Un couple montréalais dans la cinquantaine qui a tout abandonné pour vivre à temps plein dans un van de 72 pieds carrés fait rêver des internautes en documentant ses aventures nomades. Le 12 mai dernier, Gérald Delauzon, 53 ans, et Céline Marsolet, 57 ans, ont effectué un virage à 180 degrés. Ils ont commencé à vivre à temps plein dans leur véhicule récréatif GMC Van Dura de 1980 dont la mécanique a été remise complètement à neuf. Après plus de 30 ans de mariage et une vingtaine d'années à demeurer dans la même maison, c'est par accident que le couple a fait le grand saut. Ils ont succombé aux attraits du vanning, un mot qui désigne une nouvelle génération de nomades du 21e siècle. Quand on s'est procuré le véhicule, c'était pour les fins de semaine et les vacances à l'occasion. Mais 2 ans plus tard, j'écoutais une vidéo sur YouTube d'un monsieur qui vivait dans son van et j'ai dit à Céline « On pourrait faire pareil? » Et elle de me répondre « Ben oui, on peut le faire », raconte l'homme qui a quitté son emploi de cadre à la ville de Dollard-des-Ormeaux en juin dernier. « Avant, on existait », dit Mme Marsolet. « Maintenant qu'on a tout vendu sauf le van, on ne travaille plus pour les autres. On travaille sur nous et pour avoir du plaisir. On n'a plus de dettes, tout est payé et on vit au jour le jour. » Ces passionnés de vanning, terme anglais désignant le fait de voyager dans un van, utilisent le mot « purge » pour décrire le processus d'abandon de biens matériels qu'ils ont eu à effectuer plus d'une fois. Si ça vous tente, le van en question sera exposé, le Tiki Motel Van, avec une dizaine d'autres véhicules du genre, le vendredi 17h à l'aire commune dans le Myland de Montréal dans le cadre de l'événement Go Van X Nomad Junkies. Vous l'entendez, la musique me signale que c'est fini pour moi, c'est fini pour cette édition du 24 août 2018 du Quotidien des Quotidiens. Je remercie Jean-François Roy à la mise en onde et aux choix musicaux. Jean-François qui va se déchaîner dans la prochaine demi-heure pour une émission toute en musique. Pour ma part, je vous invite à rester à l'écoute puisque Emmanuel Robitaille et Christiane Campagnat prendront le relais à compter de midi avec M. L'été. Et Hélène Denis, elle sera de retour à ce micro dès lundi. Merci. Yeah.